Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle.
Ah bon?
Bah, me regardez pas comme ça, moi j'ai 27 ans, les gars, j'ai bourlingué. Hein. Enfin bref,
c'est notre... Surtout comme nous tous, maintenant, tu es souvent aux côtés de Nicolas Martin.
Oui, ça contamine. C'est notre rendez-vous du mardi, consacré aux films du patrimoine qui ressortent en salle, en VOD, en streaming ou encore en support physique. Je suis toujours accompagné de mes fidèles camarades. Bonsoir Sophie.
Salut, je mange du pop-corn.
Bonsoir Arthur.
Hello.
Et bonsoir Simone.
Salut, je mange du vin.
Avant de commencer, je vous invite déjà à nous suivre sur les réseaux sociaux de Réaliser son trucage, si ce n'est pas déjà fait, Twitter et Instagram, et à nous écouter sur les applications de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox, j'en passe et des meilleurs. C'est mieux pour nous et c'est mieux pour vous. Les amis, nous sommes en 1841.
Ah non, pas du tout.
Oui, bah, nique pas mes effets tout
de suite. Fais un effort, Sophie.
Nous sommes en 1841. Sous le soleil de la Californie, alors encore province mexicaine, les pauvres gens continuent de subir l'oppression de l'armée aux ordres d'une noblesse avide de pouvoir et de richesse. Face à eux, un justicier vieillissant décide de transmettre ses valeurs et son art de l'escrime à un jeune voyou intrépide. Bientôt, celui-ci perpétuera la légende d'un héros téméraire, un vengeur masqué prêt à tous les exploits pour triompher de la tyrannie.
Tristar Pictures, Emblem Entertainment et le réalisateur de GoldenEye. Dans un pays où la liberté est un souvenir et la justice bannie, les justes doivent devenir des hors-la-loi. Masque de Zorro.
Le Masque de Zorro, réalisé en 1998 par Martin Campbell, c'est notre film de patrimoine de la semaine, puisqu'il est disponible depuis peu en Blu-ray 4K dans une très belle édition Steelbook, distribuée par Sony Pictures Home Entertainment en partenariat avec ESC. Alors, en préambule, avant d'aborder le film en lui-même, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel de qui est Zorro. Arthur, est-ce que tu peux nous dire qui est le renard? Puisque Zorro, ça veut dire renard en
espagnol. Ça veut dire renard en espagnol, tout à fait. Très rapidement, c'est un personnage créé par Johnston Macaulay en 1919 qui est, alors là, je suis désolé, je cite Wikipédia, mais c'est quand même très rigolo, un petit noble qui va se transformer en vengeur. Petit
Don
noble
Diego
qu'on
de la
dit,
Vega.
Un riche Hidalgo, parce que oui, comme Anne, un Hidalgo en espagnol était en Castille, tout comme en Amérique hispanique, un membre de la petite noblesse. Je ne l'invente pas, je vous jure que c'est vrai. Donc Zorro est un petit Hidalgo.
Saccage Mexique.
Non, en gros, c'est une figure... au départ, dans des feuilletons, qui va devenir par la suite un héros de roman. Mais avant ça, et c'est là que c'est intéressant, donc les premiers feuilletons sont publiés en 1919. Et dès 1920, il y a le premier film Zorro. Le premier roman Zorro débarquera en 1924. Et c'est donc le justicier qui va venger les petites personnes, la population, face à l'oppresseur. Et alors, au départ, c'était une figure, vous l'avez entendu, hein, créée par Johnston Macaulay, quand même pas le plus hispanophile des Américains, et c'était donc une figure de propagande anti-mexicaine à l'époque où la Californie était encore sous le joug.
Ne faisait pas partie des États-Unis,
et du coup, il y a un peu une figure de vouloir défendre ce qu'est une forme de néocolonialisme, machin. Zorro, on le connaît principalement parce que, de un, il a quand même inspiré l'un des plus grands super-héros de l'histoire, savoir Batman, et aussi pour une fameuse série sortie en 1957. 78 épisodes, vous connaissez. Vous
avez les rediffusions France 3 le dimanche soir.
On les a
soir,
tous
hein.
vus. Et qui a fait partie aussi de ces œuvres qui ont été recolorisées. Parce que 57, évidemment, ça n'est pas en couleur. On a été nombreux spectateurs à le découvrir colorisé. Et c'était une certaine Madeleine de Proust en termes d'image et de visuel à Zorro.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu à partir de cette série-là que l'iconographie que l'on a de ce personnage capé, masqué, avec escrimeur, et qui va, de la pointe de son épée, signer ses méfaits avec un Z comme ça, va devenir cette figure quasi mythologique de cet équivalent de Robin des Bois mexicain. Et là où le film de Campbell est intéressant, et je pense que c'est la porte à l'ouverture de ce débat-là, c'est que justement, le film va faire plein de références à Bernardo, par exemple, son serviteur, à Don Diego de la Vega.
Ouais.
Don Diego de la Vega, qui est le personnage qui joue Zorro, mais bon, bref. Et à tout le message politique qu'incarne ce personnage. En tout cas, jusqu'en 1998.
Alors, c'est effectivement, t'as raison de souligner la dimension politique du personnage, on va y revenir. Alors déjà, petite anecdote, je tiens à vous recommander, parmi tous les films et toutes les séries qui ont été faites autour de ce personnage, il y a évidemment les films muets de Douglas Fairbanks, enfin avec Douglas Fairbanks, et un film parlant, Le Signe de Zorro, avec Tyrone Power, réalisé par Ruben Mamoulian, que je vous conseille vivement. Mais il y en a un qui a mon affection toute particulière parce qu'il est vraiment perché.
Mais attends, Alexis, tu les as tous vus ?
Alors, je ne les ai pas tous vus, mais
parce que tu m'as fait peur.
J'en ai vu quelques-uns. Et il y en a un que j'ai vu que je trouve vraiment très rigolo, qui s'appelle tout simplement Zorro, qui est sorti en 1975, si ma mémoire est bonne, et qui est réalisé par Duccio Tessari, cinéaste italien qui est principalement connu.
Je viens de voir,
parce que c'est très important, qui est donc un cinéaste italien qui était spécialisé dans le poliziotesco, qui étaient les polars hyper violents, principalement urbains, qui se tournaient dans les années 70 en Italie. Mmh. Et Duccio Tessari a eu la bonne idée de choisir pour incarner Zorro Alain Delon, et autant vous dire que ça marche pas très très bien, mais du coup le résultat est rigolo.
Incroyable.
Avant de parler plus en détail du Masque de Zorro et de sa dimension politique, parce que c'est une des nombreuses dimensions intéressantes de ce film là, il faut peut-être resituer qui est Martin Campbell, le réalisateur, et là je me tourne vers Simon.
Martin Campbell, c'est quelqu'un qui a une carrière qui est d'autant plus intéressante et excitante qu'elle s'étale sur un demi-siècle. Il commence dans les années 70 et il est encore en activité, ou du moins il l'était tout récemment, puisqu'il a tourné un remake de La Mémoire du Tueur en 2022 avec Liam, non je ne suis pas vieux, Neeson, le Isabelle Huppert du cinéma d'action.
Et,
et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que Campbell est un véritable artisan de ce genre-là. La majorité des films qu'il a réalisés, et il y en a une tétrachier, ne sont pas tous intéressants, mais ils sont tous maîtrisé et fait par un type qui travaille à connaître sa grammaire, connaître son récit. Alors si vous n'êtes pas fan d'action, si vous n'aimez pas le côté un peu série B à l'ancienne, ça vous touchera peut-être peu, mais allez taper Martin Campbell sur IMDb.
Je viens de voir que c'était lui qui avait fait Vertical Limit.
Mais attends, Simon, tu es en train de défendre le mec qui a réalisé Green Lantern.
Mais justement, et j'y arrive.
Et on a vraiment tout trollé, on a avancé toutes nos vannes.
Non mais c'est bien, et puis vraiment vous m'aidez à parler, c'est super.
Tu veux dire qu'on t'interrompt quand tu parles ? Ce qui n'est pas du tout ta spécialité ?
Eh ben oui, mais moi si je le fais, c'est parce que c'est horrible. Et donc Martin Campbell est donc cet artisan de studio extrêmement capable, et puis à un moment, on va lui confier un certain GoldenEye. Parce que pour le renouveau, pour le retour de James Bond, on a besoin de quelqu'un quand même qui sait gérer une équipe, sait ce que c'est que le cinéma d'action, bref, est capable, si j'ose dire. Et là, on va découvrir que c'est quelqu'un qui a une culture qu'on pourrait qualifier de classique ou de néo-classique de l'action, à tel point qu'il est capable d'attraper les attendus de son époque, de la mode, et de les conjuguer à son savoir-faire. Ça donne GoldenEye, qui n'est pas un film dont je suis fou, mais c'est pas pour rien que ce film a marqué et qu'il est encore aujourd'hui considéré comme un des James Bond classiques. C'est précisément du fait du savoir-faire de son auteur. Il faut savoir, pour bien comprendre à quel point Campbell est quelqu'un de volatile, quelqu'un capable de conjuguer son savoir-faire à, sinon différents genres, en tout cas différentes époques et différentes modalités. Vous l'avez dit, c'est lui qui fera Vertical Limit. Encore une fois, un film dont je suis pas fou, mais un film qui a marqué beaucoup de gens, qui est un peu cliffhanger version bit et couteau, quoi. Version on a moins d'argent, moins de moyens, et ça va gratter très fort, qui est notamment connu pour une ouverture qui est particulièrement cruelle et radicale. C'est lui également qui va réaliser Casino Royale. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Et donc, le masque de Zorro et puis son deuxième Zorro, qui est beaucoup moins bon, se situe entre ces deux James Bond. Mais il faut quand même bien voir que GoldenEye et Casino Royale sont deux films dont la grammaire de cinéma est radicalement différente. Il y en a un qui se veut une espèce de synthèse engageante, pas encore postmoderne, mais moderne de James Bond, et une autre qui est là genre, ah ouais, ok, vous aimez Jason Bourne, eh ben on va prendre Jason Bourne dans l'ouverture de Casino Royale pour le ramener vers un classicisme narratif. Et ça, ça demande énormément de talent, énormément de précision, énormément de connaissances et surtout énormément d'amour du genre, des personnages et des légendes. Et c'est pourquoi, quand arrive le masque de Zorro, ben là, il se passe un cocktail sacrément intéressant parce que quand bien même Le Masque de Zorro est un blockbuster, est un film avec du budget, faut pas déconner, il n'y a pas la même attente symboliquement et au niveau du public sur Zorro et sur James Bond. Évidemment pas. Il y a beaucoup plus de liberté sur James Bond. Et évidemment, quand il va faire Le Masque de Zorro, il va aller chercher du côté d'Indiana Jones pour nous parler. Bah, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Le père, Sean Connery et Harrison Ford, il va se servir de l'héritage de ce film immensément populaire, non pas pour le décalquer, parce que ça n'est pas un décalque, mais pour en retirer un peu la substantifique moelle, et aussi parce qu'il a cette culture, encore une fois je l'ai dit, de la série B du cinéma d'action, ce qui veut dire du pulp, du récit d'aventure populaire venu de ses bandes dessinées aussi bien que de ses romans de gare des années 40, 50, 60, et il va amener tout ça à un moment très particulier du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que ça fait partie, un peu comme le Pic de Dante dans le genre du film catastrophe, mais je dis ça parce que c'est à peu près la même époque, ces films qui ont été les derniers à se faire quasiment sans numérique, ou en tout cas pas du tout avec le même usage du numérique que nous connaissons. Et je ne dis pas ça en disant à l'époque c'était mieux et c'était plus spectaculaire. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez voir ce que c'était qu'un film d'action extrêmement spectaculaire avant le numérique, voici un des films qui était un des tout derniers, c'est-à-dire un de ceux où les techniques, les méthodes et le savoir-faire étaient à leur plus haut niveau. C'est pas que c'était mieux avant, c'est que le meilleur d'avant, c'est ici. Et ça, tout d'un coup, c'est très intéressant. Et ça fait de ce film, mais un film d'un haut niveau, mais vous voyez, je vous dis un truc tout con, j'aime pas le patinage artistique, mais je pense que si on me met devant la plus grande performance de tous les temps de patinage artistique, j'en prends plein la gueule. Et ben là, c'est pareil, je m'en fous un peu de Zorro. Zorro, pour moi, il ressemble à quelqu'un qui sort d'une mauvaise partouze ou d'un porno un peu rigolo. L'histoire du Mexique, je la connais pas ou mal, mais tout d'un coup, je suis face à des gens qui ont envie de me la raconter avec ce qu'il y a de plus affûté, de plus généreux, de plus puissant que permettent leur art à ce moment-là. Et c'est exactement ça, le masque de Zorro. C'est l'artisanat porté à un niveau d'excellence qui est incroyablement généreux et partageur.
Moi, ouais. mon Zorro préféré, c'est le Zorro où Bruno Carrette et Rambernardo essaient de deviner ma brague était toute verte à Alain Chabat. Voilà.
Merci.
Wow. Merci de. Un très grand moment de la télévision française.
Bah oui, bien sûr. Degré, un des plus grands sketchs des nuls.
Merci de m'avoir permis de ne pas le faire.
Non, mais donc, le film, effectivement, est de facture classique ou néoclassique. Et la présence de Martin Campbell est totalement justifié de ce point de vue-là. Il faut peut-être repréciser que la production, le film sort en 98, la production du film, c'est-à-dire le moment où ils ont commencé à se poser vraiment les questions de « Ok, comment on va écrire ce film-là, comment on va l'adapter, comment on va le tourner ?» ça démarre en 92. Donc il s'est quand même écoulé 6 ans de réflexion et de discussion sur quelle forme allait prendre le film. Et avant Campbell, il y avait 2 cinéastes qui ont été tour à tour attachés à ce projet. D'abord, il y avait Michael Salomon. Alors, Michael Salomon, vous le connaissez peut-être pas, il a réalisé Pluie d'enfer avec Christian Slater et Morgan Freeman, qui n'a pas marqué les esprits pour des raisons évidentes.
Bah, c'était le revival du film catastrophe, voilà. Mais du film catastrophe un peu impur, un peu hybride, qui se mélangeait ici au thriller, ici à l'aventure, ici au machin, et qui en fait n'a pas pris au-delà de Twister.
Voilà, mais le truc, c'est que Michael Salomon s'est retrouvé initialement sur le projet pour une raison très simple, c'est qu'il était chef opérateur de Steven Spielberg sur Always, qui n'est pas le film le mieux photographié de la carrière de Spielberg, loin s'en faut. Mais
quoi ? T'as dit un peu de mal d'un film de Spielberg ?
Ah bah, y a toujours un petit peu de mal à dire d'un film de Spielberg, si je voulais vraiment être honnête. Mais le film donc est une coprod Tristar et Amblin Entertainment. Spielberg est prod exé, donc on comprend pourquoi Michael Salomon s'est retrouvé initialement sur le projet. Sauf qu'il est parti du projet et il a été remplacé, figurez-vous, par Robert Rodriguez.
Oh, wow.
Qui sortait du succès surprenant de Desperado. Et pour l'anecdote, c'est Robert Rodriguez qui a choisi Antonio Banderas pour le rôle d'Alejandro Murrieta parce que bah, il le connaissait, c'était son ami, et donc il l'a casté. Et malgré le départ de Rodriguez, qui du coup a été remplacé par Martin Campbell, et bah, Banderas a conservé le rôle. Et pour ce qui est de Catherine Zeta-Jones, ça c'est la dernière anecdote, c'est Spielberg lui-même qui a suggéré d'engager Catherine Zeta-Jones.
Donc, alors que de base, celle qui était pressentie, c'était Shakira.
Et ouais, ouais.
Non.
Donc, comme... Si, si.
Et mais pareil... attends, mais Shakira, Whenever, Whenever, c'est après ?
Oui, oui, bien après, mais elle était déjà pressentie. Ouais.
Ah ouais ?
Elle était pressentie pour le rôle.
Et pareil, de base, Anthony
d'accord,
Hopkins...
D'accord, je suis bourré, on n'a jamais dit ça.
Anthony Hopkins, c'était pas le premier choix non plus. Ça de...
C'était Zidane, 98.
Ah non, mais non, mais ça devait être... Et... Vas-y, Sophie.
Ça devait être Sean Connery.
Pour rejoindre la parenté.
Tout fait sens.
Ah mon Dieu.
Mais donc, tout est lié.
Comme je le disais au début, c'est un film qui est dans l'esprit très proche du classicisme hollywoodien et notamment des grands films d'aventure de l'âge d'or d'Hollywood des années 40-50. Et cette ascendance classique, je trouve qu'on la ressent beaucoup dans le film, notamment au niveau de l'écriture. Toi, Sophie, qui est plutôt sensible à la dramaturgie des films, est-ce que tu ressens cette ascendance classique-là particulièrement dans le positif comme dans le négatif, hein, d'ailleurs ?
Oui, bien évidemment. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça reprend ce qu'on va appeler des archétypes d'écriture, des arcs narratifs ou des caractérisations de personnages qui sont ancrés dans un système de pensée hollywoodien, mais même littéraire, en fait. C'est-à-dire que l'histoire de l'apprenti et du mentor, mais c'est aussi assez proche d'un Don Quichotte et d'un Sancho Panza. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui amène l'autre vers sa destinée. Et après, on va même se demander, c'est pour ça que je cite Don Quichotte, c'est qui finalement mène l'autre. Est-ce que ce point de départ qui est que le personnage d'Anthony Hopkins est celui qui va guider celui d'Antonio Banderas, mais au final, est-ce que c'est pas l'inverse ? Et en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance soit à faire de manière paresseuse aujourd'hui, soit à complètement l'éliminer, alors que c'est quelque chose d'absolument efficace à chaque fois. C'est-à-dire que cette position du mentor et de l'apprenti, normalement, c'est quelque chose qui se retrouve, on le retrouve aussi encore actuellement beaucoup dans le cinéma jeunesse, et c'est ça qui en fait un film aussi très attachant, parce que d'un coup, c'est très inclusif, parce qu'il ne faut jamais oublier que les schémas narratifs, il y en a très peu, et qu'on a des fois dans une surenchère d'originalité ou au contraire dans une volonté d'épuration extrême, on se détache de ces schémas qui sont pourtant fondamentaux.
Et que dans ces schémas qui sont ceux du héros campbellien, il ne faut pas oublier un truc, c'est que à quel âge sommes-nous exposés au récit féminin ou masculin, hein, mais héroïque et de formation
initiatique.
Un âge où nous ne sommes pas très loin de nos parents et où la figure du mentor... Bah, elle est à la fois celle des parents dont nous nous éloignons et celle des amis ou des profs ou des amis un peu plus âgés que nous sommes en train de rencontrer et qui nous forment.
C'est ça. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît et c'est une structure qui va s'étendre dans toutes ces sous-intrigues narratives. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'antagoniste et le sidekick méchant qui va devenir une double opposition entre le personnage, enfin, les deux Zorro et les deux nouveaux méchants. Enfin, à chaque fois, c'est quelque chose de fascinant. Il y a aussi le love interest qui va devenir aussi une forme de passation initiatique entre la figure paternelle et filiale. Ce qui peut donner un petit côté un petit peu... Oedipien, d'une certaine manière. Clairement, on va dire que le personnage d'Elena, elle a quelques daddy issues, d'une certaine manière. Mais c'est peut-être là que le film pêche. J'ai eu un grand plaisir à le revoir. Moi, contrairement à vous, c'est un film que j'avais vu enfant, mais qui ne m'avait pas forcément marqué. Mais toi, Arthur, tu l'as découvert là, hein, c'est ça ?
Non. Moi, je l'avais vu à l'époque en VHS. Okay. Mais si tu veux, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans, quoi.
Bah, pareil. Et c'est pas un film qui m'avait plus marqué que ça, parce que, étant une fille, c'est pas les VHS qu'on m'a le plus montré. C'est pas celle qui traînait chez moi. J'avais vraiment d'autres choses et j'ai pas eu du tout de déplaisir parce qu'encore une fois c'est une histoire tellement bien ficelée et tellement dynamique que peu importe son horizon du moment qu'on connaît un petit peu le cinéma d'aventure on se prend au jeu. Cependant, doit bien avoir un bémol de mon point de vue de jeune femme de 2023, c'est qu'en effet le film a un peu vieilli en termes de représentation féminine. Vraiment. C'est-à-dire que, certes, Catherine Zeta-Jones est dans ce film l'une des plus belles femmes que la Terre a portées. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire plus belle que Catherine Zeta-Jones dans ce film. Oui. Et c'est un peu dommage, du coup, que ce personnage soit autant un passage de fille à épouse, de proie, de proie
et
sexuelle.
Et séduite par l'épée et par un espèce de truc phallique terrible, quoi.
Ah bah clairement, et la scène de flirt plus avec Zorro, elle est compliquée à regarder, je vais pas mentir, genre vraiment j'ai attrapé mes coussins en mode « Ah !» Non, alors quand on séduit une jeune femme, on ne la déshabille pas avec le bout de son épée.
Jamais avec le bout de l'épée.
Jamais avec le bout de l'épée.
Alors c'est marrant parce que moi, en la voyant, je me suis fait la remarque que justement, je trouvais qu'elle n'avait pas si mal vieilli parce que d'un seul coup, on découvre que ce personnage qu'on pensait être gauche, pas très intéressant, est hyper badass et se bat quasiment aussi bien que Zorro. Bah,
pour aller dans le sens de Sophie et aussi un petit peu dans ton sens à toi, et c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vraiment senti en revoyant le film, il y a un vrai parallèle entre la franchise James Bond de cette époque-là et Le Masque de Zorro. Mmh. Et c'est pas seulement lié au fait que Martin Campbell est réalisateur, c'est aussi lié au fait que, encore une fois, le producteur du film, c'est Spielberg, qui a passé 40 ans de sa vie à essayer de négocier pour réaliser un James Bond. Donc il a régulièrement essayer de se rapprocher de la recette bondienne. Il faut savoir qu'à l'époque, on a tous en tête, évidemment, les James Bond girls à l'ancienne, façon Sean Connery, par exemple Ursula Andress dans Dr. No, qui est déjà un personnage de femme un petit peu différent des codes de l'époque parce qu'elle a un poignard à la ceinture et qu'elle n'a pas peur de s'en servir.
En fait, qui ne ressemble pas à ce que seront les James Bond girls.
Exactement, mais fondamentalement, elle reste un objet sexuel relativement passif et que l'homme va pouvoir posséder dans une logique vraiment hyper patriarcale. On est en 98 avec Le Masque de Zorro. À cette époque-là, les James Bond Girls, c'est Michelle Yeoh, par exemple, qui est la James Bond Girl, Le Demain ne meurt jamais, en 1997. C'est-à-dire des femmes qui sont évidemment toujours présentées comme des enjeux érotiques, c'est là où des enjeux plutôt érotisés et sexualisés, c'est là où je rejoins Sophie, mais qui, mine de rien, en fait, tirent leur puissance érotique, non pas simplement de leur plastique et de leur manière de correspondre à des canons de beauté d'une époque, mais de leur capacité à rivaliser avec l'homme sur son propre terrain, même si, en définitive, et c'est là où la scène est un petit peu dérangeante, c'est quand même l'homme qui aura le dernier mot, quoi.
C'est la fin de la scène qui est dérangeante.
C'est la fin de la scène qui est dérangeante. Mais aussi, là, on parlait d'archétype, et c'est pour ça que ça ne me dérange pas, parce que tous les autres personnages sont archétypaux. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui va se détacher par « Oh, mais il est caractérisé de manière tellement originale. » Moi, le seul truc, c'est que clairement, si vous regardez le film chez vous, alors pas en nous écoutant parce que ça fait trop de bruit, mais, mais si vous regardez, il y a une scène où elle s'échappe un petit peu de sa cage dorée pour aller au marché, bah, en fait, c'est littéralement Jasmine. C'est-à-dire que c'est le même. C'est Jasmine.
Ah,
ouais. C'est,
Jasmine d'Aladin.
Oui, bien, oui. J'avais pas d'autres exemples.
Non, mais pas
de...
Jasmine, notre amie Jasmine, quoi.
Ah non, bah, non, malheureusement.
On l'embrasse, monsieur.
On l'embrasse.
Jasmine, 45 ans.
Oh.
Et très bien joué.
Héroïne à caractériser.
Mais donc oui, c'est-à-dire qu'elle va au marché, elle est un peu couverte pour pas qu'on la reconnaisse que c'est la fille d'un homme important, et quelqu'un va lui dire « Ah, mais en fait, tu es plus que ça !» Et vraiment, c'est le même moment où Jasmine, on lui dit « Ah, mais vous êtes la fille du roi !» et nanana, et qu'elle va chercher Aladdin, et qui lui-même se fait passer pour quelqu'un d'autre, exactement comme Antonio Banderas qui se fait passer. C'est vraiment, c'est le même scénario que le Aladdin de 94. Et c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on se rapproche plus de l'univers du conte que de l'univers de... Je suis d'accord pour le côté satire politique ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça reste avant tout cette espèce d'œuvre très rassembleuse, parce qu'elle s'adresse absolument à tout le monde, parce que c'est des archétypes qu'on va connaître dès tout petit.
Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais peut-être vous lancer.
Ils te veulent ton job.
Non, mais je suis diplomate, je suis généreux, moi je partage. Moi, je prends le partage des richesses.
Okay. C'est beau, c'est beau.
Zorro, en fait.
C'est le climax qui, moi, m'intéresse particulièrement vis-à-vis de ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur les recettes et les techniques de ce cinéma d'avant le tout numérique. C'est-à-dire que c'est un décor gigantesque, un décor grandiose qu'il faut installer, dans lequel on va se promener, se balader. Et moi, ça, c'est quelque chose...
Une mine, on peut le dire, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas le film en tête.
Voilà, mais donc une mine, c'est un grand décor, c'est plein de figurants.
C'est plus de 2000 figurants.
Mais ah voilà, ouais, wow. Mais
2000, c'est énorme.
C'est un truc qu'on reverra pas après. Et en fait, un décor aussi grand, il faut l'installer, il faut le caractériser, il faut se promener dedans. C'est un jeu avec le spectateur, un jeu de piste, tu vois, pour installer, te dire, tiens, regarde ce fusil de Tchekhov, tiens, regarde, il y a ça là. Hop là, on va faire cette incroyable scène d'action au milieu. Et justement, moi, je voulais un peu parler du climax en ce regard, parce que moi, ça me ramène à un jeu d'enfant, mais qui est un jeu... que je retrouve très rarement en fait aujourd'hui au cinéma, qui est quasiment les Lego, tu vois, ce plaisir de la construction, de savoir que ce décor est construit et on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire dedans. C'est rarissime. aujourd'hui, enfin rarissime, voire complètement disparu, d'avoir ce sentiment de réalité et ce sentiment de ludicité, vraiment, d'un espace. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait en le revoyant.
J'ai failli troller en disant que dans Ant-Man 3, il y avait tout un décor de la cité, mais je
oui, mais qui n'existe pas, de fait. C'est là où Simon va en venir.
C'est que là, on est au milieu d'un décor construit avec lequel on va jouer. Et vraiment, moi, ça me ramène à une forme d'enfance et de rapport à l'enfance devant le cinéma.
Bah, c'est que tout fait vrai, en fait. En aucun moment, t'as l'impression que c'est du carton-pâte. Et effectivement, tu réalises la grandeur de ce décor. D'autant plus que ça fait lien avec l'histoire où, en fait, c'est parce que le personnage incarné par Banderas qui se fait passer pour un noble pour se rapprocher du méchant découvre l'horreur du capitalisme et de comment on est prêt à sacrifier des dizaines et des dizaines et des centaines d'employés, d'esclaves.
Mais
presque.
C'est un super plan de méchant. Ça, je dois bien le reconnaître.
Oui, tout à fait.
Non, mais c'est que des fois, c'est juste « Ah, je suis méchant pour être méchant ». Là, le plan est super bien construit. Moi, le fait de prendre l'argent du pays pour l'utiliser comme si c'était leur propre argent en mettant un nouveau truc sur les lingots d'or, c'est super malin.
Mais du coup, en fait, je trouve que la manière d'imbriquer, sans mauvais jeu de mots, ce décor-là dans le récit de cette manière-là fait qu'en plus, ça dépasse le plaisir d'enfant, que ça devient d'un seul coup un vrai outil narratif.
Je suis complètement d'accord avec toi, Arthur. Et ce qui est, je trouve, un des aspects qui, moi, m'enchante et vraiment m'émerveille à chaque fois que je revois Le Masque de Zorro, c'est ce plaisir ce plaisir du vrai. C'est-à-dire que je sens que Martin Campbell et ses équipes prennent vraiment beaucoup de plaisir et prennent beaucoup de temps à me montrer que ce décor existe, qu'il a une réalité concrète, que quand les acteurs interagissent avec, ils interagissent vraiment avec, sans la barrière d'un quelconque effet numérique.
Les cages de bois, tu sens que les figurants, ils se mettent des échardes dans les mains. Quoi.
Mais voilà, tu vois, tu sens la matière, tu sens l'organique de la situation, en fait. Et je suis convaincu que ce climax-là, s'il avait été tourné dans des conditions plus modernes, mais vraiment la même dramaturgie, les mêmes enjeux, le même cadrage, n'aurait probablement pas fonctionné parce que la moitié du décor aurait été reconstitué en image de synthèse pour des raisons de simplification de tournage.
Et que ça ressemblerait à un parking.
Et ben voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on perdrait l'authenticité du décor, quoi. C'est que, en plus, même en tant que cinéaste, je suis persuadé que quand on est dans un décor et qu'on a à charge de le filmer, quand le décor existe intégralement devant nous, il y a des plans partout, en fait. Mmh. Et ça, on le sent bien, je trouve, dans le climax. On sent que Martin Campbell, il n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin. Et je dis ça sans mépris aucun. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour faire des plans de cinéma. Parce qu'il a un décor magnifique. Et qu'un décor magnifique, si on a un tant soit peu de jugeote, on sait très très vite comment le cadrer pour que ce soit bon.
T'as envie de filmer.
Mais c'est ça. T'as cette pulsion du filmage. Et ça, on le ressent tout le long du film. C'est-à-dire qu'on le ressent dans cette grande scène de danse, encore une fois, très James Bondienne. Et qui, d'ailleurs, pas sans rappeler la scène de danse, l'espèce de tango dans Jamais plus jamais, le James Bond non officiel avec Sean Connery.
Voir un certain Mission Impossible 2.
Oui, aussi, qui est sorti un petit peu après, lui, pour le coup,
Oui.
Cette séquence de danse, on est dans un vrai décor, quoi. Et on sent bien que la caméra filme autant la danse d'Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones que tout le décor et la vie qui existe derrière eux, en fait. Et ça donne de la profondeur au film et ça donne du relief au film.
Mais comme la base, si j'ose dire, du vieux Zorro est une Batcave. Mais une Batcave, enfin, tu compares ce que c'est la Batcave de Zorro et la Batcave de Zack Snyder. Enfin, je veux dire, c'est Versailles.
Mais même ça allait jusque là.
C'est Versailles et c'est les toilettes du dépôt.
Celle du Batman de Clooney, tu vois, qui sort à peu près à la même époque. C'est 98.
Tu as raison.
Moi, il y a un autre truc d'authenticité que je ressens vraiment dans le film. J'ai vu un film dont je n'ai pas le droit de parler et qui sort dans quelques semaines, que j'aime bien au demeurant, que je défendrai autour de cette table et je serai l'un des rares.
Josiane, 45 ans, secrétaire.
Ah, il faudra que je remette un bip, on n'est pas censé dire le titre en entier. Ah, mais c'est pas grave.
T'as perdu au jeu.
Je ferai ça pour faire plaisir à Nicolas. Mais tout le monde sait de quel film on parle.
J'ai vu un film qui sort dans quelques semaines, dont on va beaucoup parler parce que c'est une sortie importante. Et c'est un film que vraiment j'aime et que j'apprécie et que je défendrai. Mais il a un défaut majeur, surtout maintenant que j'ai vu Le Masque de Zorro, c'est que c'est un film qui n'arrive pas à aborder les chorégraphies de combat. Or, on regarde Le Masque de Zorro, c'est impressionnant à quel point les épées, les chorégraphies, les jeux de caméra autour. Tout semble vrai, tout le temps. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé aussi en revoyant le film, c'est à quel point l'authenticité, ça passe par l'interprétation, les décors, bien tout sûr. Ce que vous voulez, mais aussi, avant tout, parce que Zorro, c'est au départ un escrimeur. Bien. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui manie l'épée, qui sait se battre et qui bat tout le monde. Et c'est un récit d'initiation, on l'a dit, donc au final, Banderas, au début, il se prend des coups et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus fort. Mais chaque combat est particulièrement bien travaillé en termes de découpage, de la manière de cadrer, de choisir quel plan on va mettre à quel endroit. Je trouve ça vraiment particulièrement marquant.
C'est à cause du masque de Zorro qui lui ont fait faire la voix du chapeauté.
C'est exactement ce que je me suis dit. Et en fait, le parallèle est incroyable.
Ouf.
C'est ouf. Voilà, oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas, le chapeauté est doublé dans la version originale par Antonio Banderas, et c'est absolument logique.
Mais effectivement, c'est un grand film de divertissement, mais c'est un film aussi qui est un vrai film de genre, dans le sens où il obéit au code d'un genre, qui est effectivement le film de cap et d'épée. Et les duels à l'épée ont une place prépondérante dans le film, ont nécessité un long travail d'apprentissage et d'entraînement pour les comédiens. Et ça, c'est pareil, on sent qu'on est dans une veine un peu classique, parce qu'à l'époque déjà, où Douglas Fairbanks ou Tyrone Power incarnaient Zorro dans les années 20 ou dans les années 40, on avait déjà des acteurs qui passaient longtemps à s'entraîner, à manier l'art de l'escrime, parce que, surtout à l'époque, les caméras étaient lourdes, les possibilités de trucage n'étaient pas les mêmes. Donc si on voulait deux acteurs qui se battent à l'épée devant une caméra et que ce soit crédible, il fallait que les acteurs se battent à l'épée, tout simplement. Et on retrouve cette même énergie classique, ce même goût, encore une fois, de l'authenticité, ce qui peut paraître paradoxal quand on parle de classicisme, mais quand même, de cette idée de « on va filmer des situations telles qu'elles sont. On ne va pas essayer de créer une situation artificielle au montage ou avec des effets spéciaux. »
Et pourtant, avec plein de dramaturgie.
Bien sûr.
Les combats ont des vrais enjeux, t'as peur, l'habillage sonore, les bruits, les contacts des ça fait pas du tout ce bruit-là, des épées qui se croisent, mais vous voyez ce...
Ouais, oui.
Le kling-ling.
Tout
fait vrai, et c'est pas surenchéri, mais tout fait vrai tout le temps.
C'est un combat d'épée, oui, c'est un bruit de combat d'épée, ça.
Une épée de peau, ouais.
Ouais, voilà. Ah ouais, totalement un bruit de combat d'épée, bien sûr.
Oh là là, quelle belle rapière.
Non mais Sophie soulevait une qualité de scénario, et je suis d'accord avec elle sur la qualité d'écriture du méchant.
Ouais.
Moi, ce méchant me rappelle un très grand méchant de cinéma, et je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Il me rappelle, alors toute proportion gardée, bien évidemment, il me rappelle un peu le méchant des Enchaînés d'Hitchcock, moi.
Oh, bien vu, j'aurais pas du tout pensé, mais c'est assez juste.
Parce qu'en fait, c'est un méchant qui n'est pas initialement caractérisé comme un méchant. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme un politicien qui a une mission de politicien, ça c'est pour l'intro, et après, on nous montre...
Quand sa mission va aller au bout, et comme il va aller au bout de sa mission...
On nous le présente comme un politicien dévoué, qui se bat pour une cause, qui n'est pas noble, loin s'en faut, mais qui se bat quand même pour une cause, pour des convictions, et qui, en plus, n'est pas initialement présenté comme un mauvais père, comme quelqu'un d'intrinsèquement cruel ou insensible. Et ça, il va évidemment le devenir de plus en plus au fil du récit, comme le personnage d'Alexander joué par Claude Rains dans Les Enchaînés, qui est présenté par le personnage de Cary Grant comme l'homme à abattre, mais qui en fait n'est pas caractérisé comme tel avant la toute fin du film.
Et surtout, qui va le devenir parce que lui-même porte un principe qu'il va amener jusqu'à sa conclusion, jusqu'au bout, et c'est la fidélité à ce principe qui le fait devenir, à nos yeux, négatif.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sophie, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le nom du méchant secondaire que tu trouves tout à fait savoureux.
Oui, le Captain Harrison Love, qui est quand même... voilà. Et en fait, on en a parlé un peu avec Alexis, qui m'a dit oui, le mec, il a plus rien fait depuis. C'est pas vrai.
Faut resituer qui est l'acteur.
L'acteur, c'est Matt Letcher. Et notamment, je ne me souvenais pas de lui, mais il joue dans Heure.
Oh!
Voilà, il joue dans Her, mais surtout il joue dans un film que j'aime pas beaucoup, qui est 13 Hours de Michael Bay.
Ok, bon, pour moi ce mec avait disparu complètement des écrans radars.
Bah, après, il a pas une carrière ouf.
Il mais... a une tête de random boy, hein. Désolé. Hein, mais
Il a
allez sur Google, tapez.
Il a joué dans un épisode de Castle. C'est là que je le connais. Non, j'ai un petit souci avec Castle, vous l'apprendrez. Non, mais c'est à dire qu'il a. C'est un second couteau de série. Il a joué dans toutes les séries possibles.
Second couteau random Neville Seals.
Exactement.
Il a joué dans Prehistoria 3, vous connaissez ? Parce que Simon, soi-disant expert en dinosaures, tu n'as pas vu ça ? Expert en carton.
Est-ce que tu as vu Tammy and the T-Rex ? On s'éloigne.
Alors, bah oui, mais non, Prehistoria 3, les dinosaures ne l'ont pas vu non plus.
Non, bon, un peu de sérieux, un peu de fond dans cette émission quand même.
Parce que depuis tout à l'heure, c'est creux, c'est ce que tu es en train de dire.
Toi, je me tourne vers toi, Arthur, justement. Ah. Tu fais bien de me couper la parole parce que je vais t'adresser la parole. Tu es, grosso modo, le seul à avoir eu des mauvais a priori sur le film avant de le revoir.
Oui.
Autour de cette table.
Moi, quand je vous ai proposé qu'on fasse un épisode dessus, je le disais à moitié comme une blague.
Oui, voilà. Et c'est moi qui ai rebondi premier degré.
Oh, trop bien. Voilà. Et c'est moi qui avait super idée.
Ben, ah, okay. Du coup, moi, j'ai envie de te poser la question. Ce film-là, il a fonctionné 25 ans après sa sortie, et je ne sais pas combien d'années après que tu l'aies vu pour la dernière fois. Quand tu le vois, est-ce que quelque part, ça ne te dit pas quelque chose sur le cinéma de divertissement d'aujourd'hui ? Est-ce que tu penses... On a perdu. Je ne parle pas forcément de Marvel. Hein.
Je vois. Où
on parlait
tu veux
non.
Venir.
On parlait de 65. C'est la Terre d'avant.
Bien, gros.
Non, on parlait de 65.
Ah non, franchement, ça pourrait valoir pour John Wick. Hein.
Alors, on en parlera. Mais on parlait de 65, la Terre d'avant, à l'émission précédente vendredi dernier, qui était un film problématique parce que justement, il n'allait pas au bout de son idée, contrairement à ce que Simon défendait. Mais est-ce que toi, tu n'as pas une espèce d'impression de quelque chose qui a été perdu dans la manière de fabriquer des films de divertissement à Hollywood aujourd'hui par rapport à ce qu'était Le Masque de Zorro ?
Mais j'arrive pas à savoir si c'est par rapport à tout ce qu'a dit Simon sur le décor, ce qui est très vrai, si c'est par rapport à cette volonté de vouloir aller piocher dans une mythologie qui est celle de James Bond dont on a parlé, ou si c'est par rapport à ce qu'a dit Sophie sur l'espèce de pureté narrative un peu cliché mais qui reprend des archétypes. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, étrangement, je trouve que le film ne fait pas dater. Alors oui, il y a une représentation d'un féminin qui est un peu vieillot, certes, mais, et c'est peut-être parce que je l'ai redécouvert, parce que moi j'ai reçu la version en 4K, donc moi je l'ai vu en 4K, et objectivement l'image est assez magnifique, et comme il n'y a pas beaucoup d'effets numériques, même voire pas du tout, ça ne vieillit pas. Les décors font toujours vrai. Même dans, il y a un truc assez intéressant, c'est que pour le coup, la manière de jouer, c'est quelque chose qui peut aussi vieillir. Il y a une façon de jouer dans les années 60 qui n'est pas la même que celle des années 80, qui n'est pas la même que celle des années 2000. On pourrait voir quelque chose de vieillir. Je trouve qu'en tout cas, quand j'y réfléchis, chez Banderas, ça ne vieillit pas. Chez Hopkins, ça ne vieillit pas. Chez Zeta-Jones, un petit peu, mais c'est plus son rôle qu'il est. Bref, pour moi, le film me dit que ce qui manque au divertissement actuel, c'est cette sincérité peut-être. C'est très cliché ce que je dis, mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est le côté très vrai de tout ce que je vois, et qu'à aucun moment je doute que Banderas s'est vraiment entraîné à l'épée, qu'à aucun moment je doute qu'ils aient tourné dans ces grands décors-là, qu'à aucun moment je doute qu'ils y croient tous et qu'ils ont tous envie de s'y investir et que c'est un vrai grand projet. Peut-être que c'est ça qui manque un peu au divertissement actuel. C'est la réponse la plus cliché que j'ai pu faire dans ce podcast,
non,
je pense.
Loin de là.
Mais c'est comme ça que moi je le ressens. Et en fait, je pense que j'avais un a priori négatif parce que Martin Campbell, c'est intéressant, hein, quand Simon a décortiqué sa carrière, il n'a pas mentionné Green Lantern. À l'heure actuelle, Martin Campbell, pour plein de gens, c'est Green Lantern. Peut-être que dans quelques années, on reverra Green Lantern à la hausse. J'en doute, mais
moi,
peut-être.
Je déteste pas le film.
C'est juste que, pour le coup, Green Lantern souffre justement d'effets numériques qui ont vieilli. Ça, c'est radical.
Ça, c'est incontestable. Mais en fait, c'est juste que par rapport à Green Lantern, je vois pas pourquoi il est pire qu'un autre. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Je le trouve pas incroyable, mais je le trouve pas pire.
Oui, mais c'était les débuts, si je puis dire, de la suprématie en termes de communication de Marvel sur
oui,
DC.
Oui, c'est ça.
Et où tout d'un coup, DC n'a pas du tout réussi à enrayer la narration qui est en train de surnager dans les médias.
Juste
à savoir,
avant, Superman Returns.
Voilà, c'est parti pour être une catastrophe et ça va être horrible. Là où Marvel maîtrisait. Et encore, pour une large part, maîtrise complètement sa communication. Mais vraiment, Green Lantern, ça n'est pas pire qu'un Marvel moyen. Wow, c'est juste qu'ils n'ont pas maîtrisé leur communication. Le pire, bref, c'est même qu'ils ont été plutôt visionnaires sur beaucoup de techniques, notamment le fait d'avoir leur costume complètement en numérique, ce qui, à l'époque, était
clairement un truc assez nouveau et assez visionnaire, ce qui aujourd'hui est la base chez les Marvel.
Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je le revois en 2023, je me dis, de un, c'est un souvenir de gamin, est-ce que c'est vraiment bien ? De deux, merde, c'est le mec qui a fait Green Lantern. Et en fait, eh ben non, c'est ce qu'a dit Simon tout à l'heure, ce n'est pas que ça, c'est aussi un héritage de James Bond. Et bref, moi, j'y retrouve plein de choses de ce qu'on ne retrouve pas forcément à Hollywood en ce moment sur ce point-là. De l'honnêteté, de la volonté de vouloir raconter quelque chose et de le faire avec une vraie profonde envie d'amour du cinéma.
Il y a deux petits sujets qu'on va aborder histoire de terminer ce module sur le masque de Zorro. Déjà, bon, il y a une dimension politique sur laquelle on va revenir, mais avant ça, on en a discuté un petit peu avant l'enregistrement. Sophie, toi, tu considères, et je suis plutôt d'accord avec toi hein, d'ailleurs, que le masque de Zorro, c'est un divertissement pour enfants. Est-ce que tu peux approfondir cette question ?
Oui, justement, on peut penser que pour enfants, c'est péjoratif, mais en fait, pas du tout. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas en 2023, on a quelque chose où on a vraiment mis une grosse séparation entre le pour enfant et pour adulte ou pour jeune adulte. Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas montrer un Hunger Games avant 12-13 ans, comme on ne va pas permettre à des divertissements relativement petits d'être appréciés par des plus grands. On a vraiment mis des grosses cases, des gros avertissements sur qu'est-ce qu'il faut regarder à quel âge. Et moi, là, quand je revois Le Masque de Zorro, je me rappelle que vers 9-10 ans, j'ai vu La Momie et que c'était un pur kiff. Et pour moi, enfant, ça ne veut pas dire 5-6 ans. Hein, ça veut dire genre vraiment prendre une... Enfin, à l'époque, prendre une VHS.
Jusqu'à 13-14 ans.
C'est ça. C'est bien sûr qu'il ne faut pas montrer Le Masque de Zorro à un gamin de 5 ans. Enfin, c'est, de toute manière, ça ne l'intéressera pas.
Il ne le comprendra pas.
Voilà. Mais par contre, vers 10 ans, quand tu commences à avoir tes premiers frissons, quand tu te dis... Parce qu'il n'y a pas d'horreur, techniquement. Il y a juste... quelques petits éléments un petit peu perturbants. Il y a une tête dans un bocal, par exemple. Mais comme il y a des scarabées numériques qui passent sous la peau dans La Momie. Ce n'est pas horrifique. Par contre, c'est des images qui marquent et qui peuvent, c'est sûr, créer des cauchemars ou autres, mais qui permettent une ouverture au dialogue et de parler tout simplement de cinéma. Parce qu'en fait, c'est avec ce genre de film que les parents vont avoir les premières discussions sur « tu sais ce que tu regardes dans l'écran, c'est pas vrai ». Et en fait, c'est le moment où tu commences à aborder le cinéma comme du cinéma. Parce que moi, quand je regardais Roger Rabbit à 5-6 ans, mais je ne comprenais pas que c'était pas des vrais dessins animés, parce que j'ai pas encore le recul. Et c'est ce genre de film qui te permet d'avoir tes premières discussions d'adultes à propos du cinéma. Parce que l'enfant va prendre ces images comme quelque chose peut-être de différent du cinéma pour petits. Et on arrive sur le cinéma pour pré-ado, pour du cinéma abordable à partir d'un certain âge avec un certain prisme. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Je ne veux pas avoir une attitude de boumeuse ou quoi que ce soit en disant bah, « ça n'existe plus parce que ce n'est pas vrai non plus ». C'est-à-dire que quand on a eu, et pourtant ce n'est pas des films que j'affectionne, hein, mais quand on a eu « Les Pirates des Caraïbes », c'était des films où, pareil, on pouvait avoir ce début de discussion parce qu'il y avait des images un peu effrayantes. Ou j'ai cité Hunger Games, mais quand j'avais découvert Le Labyrinthe, qui est pour un peu plus vieux pour le coup parce que ça parle de pratiques d'ado, enfin, c'est vraiment des jeunes de 15 ans.
Des rapports sociaux d'ado.
Des rapports sociaux d'ado. Mais par contre, c'est des films où tu peux commencer à avoir ce genre de discussion autour soit de la science-fiction, soit d'un genre cinématographique. Puis c'est, généralement, c'est con, mais est-ce que vous n'avez pas commencé à avoir des passions à cause de trucs que vous voyez dans les films ? Moi, je suis sûre qu'il y a plein de petits garçons dans les. Plutôt parce que c'est par identification. Hein, je ne dis pas ça de manière sexiste ou quoi que ce soit, mais je suis sûre qu'il y a plein de gamins qui se sont dit j'ai envie de faire de l'escrime. Ou de gamines. Ou n'importe quoi qui sont.
Je veux une moustache et un masque loup.
Il n'y a que toi, ça.
Ah bon. Ou faire du cheval. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est.
En général, ça va ensemble.
Pardon. Toujours. Ça va toujours ensemble. Tu ne fais de l'esprit. Bref.
c'est intéressant ce que tu disais, Sophie, parce que quand tu as commencé ton argumentation au début, j'étais pas du tout d'accord avec toi, parce que pour moi, c'est pas un film pour enfants. Mais en fait, là où je te rejoins, c'est que pour moi, un film pour enfants, tel que tu l'entends, c'est un film qui s'adresse pas que aux enfants.
Mais c'est parce que ça ne devrait pas exister.
Exactement.
Les films
c'est pour ça qu'au début, j'étais pas d'accord avec ce que tu disais. Mais en fait, là, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est un film qui s'adresse aux grands comme aux moins grands.
C'est parce que pour moi, les seuls formats qui ne devraient s'adresser qu'aux enfants, ça ne devrait même pas vraiment être encore des longs métrages. Je parle pour les petits. Hein.
Oui, c'est des petites séries.
C'est des petites séries.
C'est pas de patrouille.
C'est pas de patrouille, hein, c'est Peppa Pig, c'est Dora l'exploratrice.
Non, Dora l'exploratrice, il faut pas montrer ça à ses enfants. Tu fais une génération de psychopathes, hein. Il faut pas leur montrer ça. Hein. Non, sinon, ils vont croire que leur sac à dos parle anglais.
Tu parles de la version autrichienne qui est très différente.
Les Télétobies, enfin non, mais.
Ah
non, là je fais
avec
ça.
La tête du bébé dans le soleil, mais quel cauchemar.
Non, mais là je fais ça pour vous provoquer. Mais ce que je veux dire, c'est que les petits ne sont pas censés regarder des trucs trop longs. Et surtout, oui. Ils ne sont pas censés regarder des images qui vont trop vite. Par contre, dès que tu commences à avoir vers généralement 5-6 ans la possibilité de montrer. Tu y vas crescendo. C'est-à-dire que moi je considère qu'aujourd'hui, un film à montrer, c'est les premiers Miyazaki. Par exemple, c'est une très bonne porte d'entrée parce que les images vont lentement. Puis tu commences par l'animation, puis au fur et à mesure, tu commences à aller.
Mais c'est juste que la formulation film pour enfants, on a tendance à penser que c'est des films destinés pour les enfants en premier lieu.
C'est
ce n'est pas le cas du Masque de Zorro, selon moi.
En fait, on parle d'une pureté de cinéma et d'une pureté de l'intention qui fait qu'un enfant va pouvoir se greffer dessus, prendre, j'ai presque envie de dire, l'ascenseur du cinéma et avoir un ascenseur émotionnel vers lequel toi tu le réceptionnes et tu lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as vécu, parlons-en.
Puis on sous-estime tellement la capacité des enfants à recevoir, à comprendre des films. Là, je suis la première à être tombée de ma chaise quand ma nièce de 6 ans et demi, son film préféré actuellement, c'est Sister Act. Pourquoi ? Genre, il n'y a rien qui me dit, bah non, normalement, je vais lui montrer un film de un Disney ou quoi que ce soit. Mais non, elle aime déjà des vrais films.
Je ne peux pas m'empêcher de me dire que Le Masque de Zorro a quand même des enjeux politiques, des réunions qui font que quand t'es gosse, tu captes pas tout.
Bah, mais alors, c'est pas grave.
Moi, ayant vu quand même le film, je pense, facilement une trentaine de fois. Parce mais étant gamin, c'était vraiment un film que j'avais en VHS. Ah,
mais tu m'étonnes que tu veux qu'on fasse l'émission dessus.
Mais bien sûr. Mais je ponçais le film en boucle et je pense que avant de le revoir à l'adolescence, quand j'avais 16-17 ans, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais jamais rien compris au plan du méchant, en fait.
Mais tu penses
que... avais jamais rien compris. Par contre, ce que je comprenais très bien, c'était que le méchant, il voulait faire du mal aux pauvres, alors qu'il était riche, et que Zorro, il voulait lui déglinguer la gueule.
Parce que tu étais déjà de
gauche. Fin de l'histoire. Oui, bien sûr. Mais c'est... non, mais en fait, quand t'es gosse, si le film est suffisamment malin dans son écriture et suffisamment limpide, tu vas retenir ce que t'as besoin de retenir pour t'accrocher au récit, en fait.
C'est pour ça que je parlais de pureté. C'est un film qui est suffisamment pur pour laisser à un enfant une porte d'entrée et encore une fois un ascenseur vers lequel il monte et où tu dis t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Et ça, c'est devenu rare.
Bah oui, mais par exemple, c'est vrai que Roger Rabbit, moi j'ai compris très tard que le personnage était alcoolique. Mais c'est bête parce que c'était pas un truc que je comprenais. Parce qu'en fait, de se focaliser sur il faut qu'il retourne à Toonville. Point. Enfin, moi, tu vois,
j'ai même un exemple plus radical que ça. J'ai compris encore une fois à l'adolescence, quand j'ai commencé un petit peu à me politiser, que James Bond était misogyne. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, le rapport de James Bond avec les femmes, il me passait complètement au-dessus. Ça me dépassait complètement. Et un jour, j'ai revu Goldfinger. J'ai vu la scène dans la grange. Je me suis fait oula, waouh, c'est chaud quand même. Mais avant, je l'avais juste pas capté, en fait. Je regardais pas les films pour ça. Et effectivement, je pense que t'as raison là-dessus, Arthur, et t'as raison, Sophie, aussi. C'est qu'on a un peu perdu, ça. Cette espèce de pureté inclusive qui fait qu'un film peut être réceptionné de plusieurs manières par plusieurs tranches d'âge de spectateurs. Ça, aujourd'hui, c'est en train de se raréfier de plus en plus. C'est peut-être même en voie d'extinction. Et Le Masque de Zorro, je trouve, dans cette catégorie, est vraiment un exemple éclatant.
Mais parce qu'on en a même un peu peur et qu'on se dirait, mais est-ce que reçoit l'enfant, que reçoit le jeune, oulala, faisons attention.
C'est ça.
Parce que encore une fois, et c'est la parfaite transition, c'est un film politique.
Et bien justement, Arthur, tu nous parlais du rapport du personnage de Zorro à la politique, et en l'occurrence à une certaine forme de colonialisme anti-mexicain au début de son existence, à l'époque où il était encore un personnage littéraire. Que nous raconte Le Masque de Zorro sur la dimension politique de Zorro ?
Pour moi, il est en même temps dans la continuité du personnage de Zorro, à savoir défendre les pauvres face à des dirigeants. Et en même temps, il a un regard différent. Les colons ne sont pas... Comment dire ? C'est pas les Mexicains les grands méchants. Et en même temps, c'est les colons. Enfin, il y a une espèce de figure qui est différente. Là, ça va être vraiment les opprimés versus les oppresseurs.
Ah oui, c'est ultra simplifié.
Alors oui, mais tu vois, à l'époque de quand Zorro naît en 1919-1920, il y a vraiment cette notion d'en faire une figure qui va représenter un message politique. On est en 98, c'est terminé, la Californie est devenue américaine depuis longtemps, basta cosi. Là, il y a la volonté de vouloir raconter autre chose, et je suis même assez surpris, parce que dans les années 90, peut-être que je me plante, mais dans les années 90, j'ai la sensation qu'Hollywood essaye d'être de moins en moins politique. La guerre froide est terminée, on se recule un petit peu, on respire un peu plus et on l'est moins. Et là, je trouve que celui-là va nous raconter qu'en fait, l'oppresseur, c'est peut-être aussi le colon américain, qui n'est pas quelque chose qu'on avait vu jusque-là comme représentation de chez Zorro. Et que lui va se battre, mais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, comme un Romain des Bois.
Bah, c'est pas rien, parce qu'il y a un détail qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, parce qu'il a un nom rigolo, mais il y a un truc très sérieux et très profond derrière le personnage du capitaine Love, qui est grosso modo le second couteau du grand méchant, qui est cette espèce de gouverneur qui veut faire de la Californie un état indépendant pour pouvoir continuer d'oppresser la population et piller ses richesses.
Raphaël
Montero, c'est que le capitaine Love, c'est un capitaine de cavalerie américaine. C'est un Américain. Et c'est pas n'importe quel Américain, c'est un Américain blond aux yeux bleus, quoi. C'est vraiment l'archétype du caucasien dans sa pureté maléfique.
Le capitaine Amour ?
Ben, c'est ça, mais en fait, il faut bien comprendre, même dans la série Disney avec laquelle j'ai en partie grandi, celle avec Guy Williams qui était diffusée sur France 3 en boucle avant le film du soir, cette série-là nous montre systématiquement Zorro aux prises avec une armée qui est une armée mexicaine.
Bien sûr.
Là, on a quand même l'idée que le plus sadique, le plus ouvertement cruel, c'est un Américain. C'est pas rien, ça, pour le public des années 90 et pour le discours et la profondeur politique du film.
Et puis, il y a un autre truc que moi, je trouve particulièrement fort, et qui... alors, je connais pas bien les films d'autres Zorro, mais c'est il y a un moment, deux moments, je trouve vraiment où c'est très fort, où le peuple réclame son héros. Et où Zorro représente un espoir dans un État, dans un régime politique qui oppresse. Au début, notamment avec tout le moment où le premier Zorro, le vrai Don Diego de la Vega, qui est incarné par Anthony Hopkins, va effectivement sauver trois personnes qui sont sur le point d'être exécutées. Et à un moment où, 20 ans plus tard, Anthony Hopkins sort de prison, il se retrouve face au retour de ce grand méchant, et où quelqu'un, où lui dit « Mais qui vous a déjà aidé? Qui vous a déjà sauvé ?» Et tout le monde dit « Bah, Zorro, mec, en fait, arrête de vouloir nous faire des grands discours politiques. Le seul qui a vraiment pris soin de nous, et ben c'est Zorro. » Et là, il retrouve aussi un discours politique que je trouvais hyper fort, parce que c'est la figure je suis désolé, je tourne en rond, mais de Robin des Bois, quoi. C'est vraiment ça.
Bien sûr, bien sûr, la boucle est bouclée.
Mais il faut bien voir qu'à l'époque, on est pris à un moment politiquement qui est un peu particulier dans les studios américains. Alors, on a coutume de dire que Hollywood est démocrate et de gauche. Déjà d'une, historiquement, c'est faux. Hollywood a longtemps été de droite et républicain. Et ensuite, il faut toujours nuancer.
Démocrate et de gauche, ça va pas forcément ensemble. C'est ça,
oui,
mais
pour nous Français. Pour nous Français. Mais, tu vois, par rapport à l'équation américaine. Mais surtout, à ce moment-là, dans les années 90, on est entre Bush père, Bush senior, donc qui est un républicain vénère, et Clinton, qui est certes un démocrate, mais qui est cette époque où les démocrates vont vraiment aller vers le business, comme les socialistes en France, comme Blair au Royaume-Uni, et où en fait ce sont certes des démocrates, mais des démocrates qui, on va dire, ne sont pas reconnus ou adoubés politiquement par toute une part de la base politique. Et où tout d'un coup, est-ce qu'on fait un cinéma républicain, est-ce qu'on fait un cinéma démocrate? On ne sait pas trop, on est un peu perdu, et donc on va se retrancher vers des figures beaucoup plus anciennes, beaucoup plus symboliques, beaucoup plus structurelles, tu l'as dit, comme Robin des Bois. Parce qu'effectivement, là, à ce moment-là, quel que soit ton bord politique, si tu es à Hollywood, politiquement, la présidence et, on va dire, la représentation de ce qu'est le leadership américain, c'est très compliqué.
Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt Zorro, Robin des Bois ou Philippe Poutou? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
On peut être les trois.
Je pense qu'on peut être les trois.
Super.
C'est acrobatique, mais je pense qu'on peut. Comme chaque semaine, en plus du film de patrimoine, un membre de l'équipe se propose de dévoiler une part intime de sa cinéphilie en totale liberté. Et cette semaine, c'est moi qui vais me prêter à l'exercice, puisque j'ai décidé de vous parler non pas d'un film ou d'une série, mais d'un compositeur. Et puisque quelques notes valent mieux que 1000 mots, je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Cet extrait provient de la bande originale du Masque de Zorro dont on vient de vous parler, signé d'un très grand, très prolifique compositeur nommé James Horner, un grand monsieur de la musique de film, hélas décédé dans un crash d'avion en 2015. Et si vous êtes familier d'Horner, vous aurez compris que cet extrait n'a pas été choisi au hasard. En effet, ce petit motif mélodique très célèbre a été nommé par les fans de James Horner le Danger Theme, ou thème du danger, puisque James Horner l'a réemployé de très nombreuses fois dans sa filmographie, toujours pour souligner l'arrivée d'un obstacle que le héros ou l'héroïne va devoir franchir, souvent au péril de sa vie. Et pour moi, ce petit motif, c'est à la fois la signature du compositeur, parce que dès qu'on l'entend, on sait tout de suite que c'est James Horner, et en même temps, c'est la clé de lecture de sa musique de film. Parce que la force d'Horner, c'est avant tout son sens de la mélodie et son savoir-faire orchestral. C'est pas rien si Horner, souvent, a vu ses mélodies transformées en chanson. C'est le cas dans Le Masque de Zorro, du thème de Zorro, qui devient pour le générique de fin un morceau chanté par Tina Arena et Marc Anthony. C'est évidemment le cas, et je vous en reparlerai un petit peu, de My Heart Will Go On, le morceau Titanic, qui est basé sur le Love Theme que James Horner a composé pour le film. James Horner, on pourrait le rapprocher initialement d'un certain néo-symphonisme hollywoodien, avec bien sûr en tête de gondole le compositeur John Williams. Mais Horner, il a quand même réussi à creuser une veine personnelle et unique dans le paysage de la musique de film, et c'est ce qui, moi, me touche beaucoup chez lui. Il y a trois aspects qui distinguent Horner de ses contemporains. Déjà, il y a des sonorités, des orchestrations qui sont héritées de la musique celtique, et on s'en rend particulièrement compte dans la bande originale de Braveheart de Mel Gibson, qui est, je pense, l'un de ses plus beaux faits d'armes. Il y a aussi l'utilisation régulière de chœurs qui vont ajouter une dimension épique et mélancolique à ses compositions. Et puis enfin, il y a des insertions, comme dans le film Jeux de guerre avec Harrison Ford, par exemple, d'éléments électroniques, de synthétiseurs, de boîtes à rythme, etc. Quelque part, Horner, pour moi, c'est l'anti-Hans Zimmer. Parce que Hans Zimmer, il a commencé à peu près comme Horner à la fin des années 70, début des années 80. Lui aussi, c'est un compositeur extrêmement prolifique qui a mélangé des sonorités électroniques et des sonorités orchestrales. Sauf que Zimmer, il se rêvait à l'époque en star de la pop music. Et donc, il compose comme un producteur de pop music. C'est-à-dire qu'il va faire des mélodies et des rythmiques très accrocheuses, très entraînantes, mais fondamentalement un peu simplistes. Horner, au contraire, c'est un compositeur extrêmement érudit, très accompli, forgé à l'écriture thématique et à l'écriture orchestrale. Et en quelques notes, Horner peut transmettre une idée, une émotion, une sensation avec une aisance et une facilité remarquables, tout en les développant sur la durée d'un long métrage intégral. En 40 ans de carrière, il faut quand même rappeler que James Horner aura collaboré avec, je cite quelques noms, malheureusement je ne suis pas exhaustif, hein, mais Oliver Stone, Wes Craven, Walter Hill, Jean-Jacques Hano, Mel Gibson, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ron Howard, sur Apollo 13 notamment, et bien évidemment, James Cameron, dont il était le compositeur attitré. Je vous renvoie à la somptueuse bande originale de Titanic, qui reste sa composition la plus emblématique, mais aussi à celle du premier Avatar, qui reste malheureusement la dernière composition d'Horner pour Cameron, puisqu'il est décédé avant de pouvoir mettre en musique le deuxième film, et qui, d'ailleurs, utilise le Danger Theme dont je vous parlais tout à l'heure, d'une manière assez innovante dans la carrière d'Horner. Il me faudrait des heures pour vous expliquer précisément tout ce qu'il y a à retenir de la carrière de ce mec-là, mais ça tombe bien, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place, et notamment une équipe d'un autre podcast qui s'appelle Total Tracks, qui revient très régulièrement sur des compositeurs qui ne parlent que de musique de film, et je cite donc les chroniqueurs de cette équipe, donc David Ogia, Olivier Desbrosses et Rafik Djoumi, et ils ont consacré 3 épisodes à la carrière de James Horner pour un total de 7 heures d'émission avec des extraits, des éléments de contextualisation et tout un parcours biographique d'Horner pour accompagner les extraits qui sont d'ailleurs diffusés dans l'ordre chronologique des sorties de films. Donc si vous avez envie de vraiment vous plonger dans l'univers hyper riche et hyper dense de James Horner, je vous recommande vivement ces 3 émissions et surtout je vous recommande d'aller écouter ces bandes originales soit en regardant les films, soit en les écoutant à part parce que vraiment il y a de très très belles choses. Simon ?
Oui, je voulais dire un petit mot pour t'accompagner, justement parce que moi, je fais partie de ces cinéphiles pour qui la musique, c'est vraiment une terra incognita. Je suis pas bon, je ne connais rien au solfège, c'est pas un domaine que j'analyse, on va dire, pour lequel j'ai une appétence naturelle. Et je te dirais, moi, je reconnais James Horner. Alors attention, hein, c'est pas du tout ironique ce que je vais dire. J'ai une grande curiosité et sensibilité, et pour moi, c'est souvent la marque des grands. Je mets à part des John Williams, tu vois, qui ont travaillé avec des thèmes. Toujours. Mais ces compositeurs de musique de cinéma que je ne remarque pas, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que je prends la musique comme partie intégrante du récit. Ce qui ne veut pas dire que si je l'écoute séparément, je ne la trouve pas brillante. Hein. Mais quand je regarde le film, à aucun moment je ne me dis « Oh, pas mal la musique qu'ils ont calée là-dessus ». Elle est organiquement liée à l'action. Et donc, c'est à ça, moi notamment, que je reconnais James Horner, avec quelques petites exceptions, parce que là, je vais parler des musiques que j'ai reconnues, identifiées et qui m'ont marqué, notamment enfant, mais vraiment qui, pour moi, sont pas du tout anodines en général et pas du tout anodines dans sa carrière. C'est sa collaboration avec John Blutt, notamment sur Don Blutt, pardon, notamment sur Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles et Five Of Far West,
évidemment,
qui sont des thèmes musicaux incroyables. Exceptionnels. Et Dieu sait que j'adore Don Blutt. Dieu sait qu'on parle souvent des films de Don Blutt par le biais de Don Blood, de cet incroyable réalisateur qui a un peu cassé les pattes à Disney et qui a fait 200 fois mieux, mais aussi notamment parce qu'il y avait quelquefois, dans certains de ses films, James Horner. Et voilà, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, c'est quand même une bande originale parmi les plus absolument bouleversantes qui a été composée.
Moi, ça m'arrive parfois d'écouter des BO sans avoir vu le film. Par exemple, là, j'y pensais, j'ai pas vu les Terrence Malick années 90-2000. En gros, j'ai vu les deux premiers, quoi, en gros, de Terrence Malick. Vraiment, ça s'arrête là. Par contre, j'ai écouté plusieurs fois, et je crois même que dans mes playlists, il y en a au moins un thème du Nouveau Monde.
Oui.
Que j'aime particulièrement. Et là où je rejoins Simon, c'est qu'effectivement, moi j'en ai un peu marre des compositeurs qu'on entend. Et on dit, ouais. Ah, ça c'est du Ludwig Göransson. C'est un peu relou. Moi j'ai besoin que la musique, elle l'accompagne au propos. Par contre, quand c'est bien fait, quand c'est très joli, comme c'est le cas de la BO du Nouveau Monde, bah là ça dépasse ça. Et voilà. Moi typiquement, je n'ai pas vu le Nouveau Monde, mais j'écoute régulièrement des chansons de cette BO.
Je ne peux que te conseiller le Nouveau Monde qui est vraiment un chef-d'œuvre.
Je sais, mais je dois le faire dans l'ordre. Et du coup, j'ai la ligne rouge, ça dure 3 heures, j'ai pas le temps.
Ligne rouge, mise en musique par Hans Zimmer, d'ailleurs. J'en parlais comme quoi la boucle est bouclée.
J'y vais.
Et vous, quel est votre héros d'aventure préféré? Quel est votre compositeur de musique de film préféré? Bah, vous pouvez bien sûr nous dire tout ça, et bien plus encore dans les commentaires. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. D'ailleurs, on se retrouve vendredi prochain pour traiter les sorties à venir. On parlera notamment de l'homme qui ne craint ni les armes à feu, ni les poignards, ni les rides. J'ai nommé Saint Keanu Reeves. Et pour l'occasion, je céderai ma place à Simon Rio. Ça va être rock'n'roll. Allez, bye les amis, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.